Octave Mirbeau, Des artistes, saison 2, Rengaine. J'ai lu dans le supplément d'un journal littéraire une nouvelle que beaucoup de bons esprits et de gais compères, de mères de famille et de critiques d'art auront dû trouver charmante, morale, artiste et vécue. Vécue surtout, suivant l'expression consacrée des éditeurs, qui lance un roman au steamer et au ballon de la réclame perfectionnée. Par l'invention, par le style, par tout ce qui la concerne, cette nouvelle eût mérité le prix biennal que l'Académie française vient de refuser à ce grand cerveau et à ce grand cœur qu'est Élisée Reclus, car elle nous console vraiment de toutes les productions empoisonnées et barbares qui ont cours, dans une certaine littérature, ainsi que l'on dit, peut-être, en parlant de pages de M. Stéphane Mallarmé. Cela s'appelle, je ne sais plus comment. Il n'importe, d'ailleurs. Ce que je sais, et ce qui importe, c'est que, dans cette nouvelle, il est question d'un jeune homme prodigieusement instinctif, supérieurement doué, étonnamment artiste, dont l'enfance révèle des qualités miraculeuses de dessinateur. Il dessinait des bonshommes sur des cahiers et charbonnait des images phalliques sur les murs. Plus tard, il se fortifie par l'étude acharnée, non de la nature, trop mesquine pour ses enthousiasmes, mais du cuirassier de Géricault, qu'il copie pendant des années avec passion, avec délire. Enfin, malgré les obstacles, malgré la pauvreté, il ne possédait que 100 000 francs, malgré les extraordinaires imaginations que l'auteur accumule tragiquement sur la pauvre tête enfiévrée de son héros, il s'écrie, ne pouvant plus contenir l'élan déchaîné de sa vocation, « Et moi aussi, je serai peintre !» À partir de ce moment décisif, commence la vraie lutte de l'homme aux prises avec l'art, lutte pleine de troubles, de doutes, de désespérance, et vous allez voir combien finement et délicatement est analysée l'âme d'un artiste moderne. Je laisse la parole à l'auteur. L'auteur n'est point quelconque, je vous prie de le croire, c'est une des plus éclatantes lumières contemporaines. Et chaque fois que l'on cite son nom, il est nécessaire, si l'on ne veut pas se singulariser, d'accoler à ce nom respecté le qualificatif d'éminent, pour le moins. « Peintre !» écrit l'éminent auteur. La chose était convenue. Mais à quelle spécialité conviendrait-il de se vouer? À la peinture d'histoire? Rien de plus démodé. Au paysage? Rien de plus couru. À la marine? Il y aurait à étudier non la mer, mais toutes les mers. Labeur sans fin et très coûteux. À la nature morte, autant voudrait se faire photographe. Tu l'entends, ô Chardin, et toi aussi, Paul Cézanne, pauvre inconnu de génie. Vous l'entendez, cuivre reluisant, porcelaine où le ciel se reflète, douloureux godillot, comme en peignit François Bonvin. Godillot déchirant, qui comptait si bien les navrements des petits soldats le long des interminables, des brûlantes routes où les pieds se meurtrissent et saignent. Et vous, fleurs merveilleuses, fleurs magiciennes, dont les tons changeants, plus subtils, plus volatiles, plus aériens que vos parfums, désespèrent l'œil, la main, l'âme d'un Claude Monet et d'un Van Gogh. Vous l'entendez ? Et l'éminent auteur poursuit. Au portrait? Passé de mode, le portrait. Le portrait de Rembrandt, de Velasquez, de Hals, de Goya, de Ingres, de Manet, de Renoir, de Whistler, de Carrière, de Forain. Passé de mode. Le mystère de la figure humaine, l'énigme de la vie. Mais ce n'est pas tout. Il continue. Ne ferait-il pas mieux d'être animalier? Mais à quel animal se donner? Rosa Bonheur et Troyon avaient pris les bœufs, Vérana les chevaux, Charles-Jacques tenait les moutons, De Peine les chiens, deux ou trois autres les oiseaux. il ne restait que les petits cochons de Siam, et encore. Ainsi, il ne lui restait plus que les petits cochons de Siam, à ce grand artiste. Quel malheur! Et encore, il n'en était pas sûr. Quelle anxiété! Cette anxiété fut longue. Le pauvre homme dépérissait, il devenait pauvre, et il apprit tout d'un coup une nouvelle affreuse. Les petits cochons de Siam, de tous les hommes, de toutes les bêtes, de tous les arbres, de toutes les fleurs, de toutes les mers, de tous les ciels, de tous les horizons, les petits cochons de Siam, seul modèle qui aurait pu lui rester, appartenaient, eux aussi, à quelques peintres brevetés. Les petits cochons de Siam, espérance dernière, suprême lien qu'il l'avait jusqu'ici rattaché à l'art, lui échappait. Il ne les peignit pas. Il ne pouvait pas les peindre. Et dans l'impossibilité de peindre quoi que ce soit, puisque toute la nature vivante, toute la nature morte, toute la nature rêvée appartenait à d'autres, il se mit à fabriquer de la fausse monnaie, ce qui le mena non à l'Institut, mais au bagne. Pauvre diable! Et, avec une pitié pleine de mélancolie, avec une psychologie dont la profondeur insondée étonnera M. Paul Bourget lui-même, l'éminent auteur ajoute « Il avait trop de talent ». Je viens de lire un roman tout récent et qui, paraît-il, obtient un succès considérable. L'auteur de ce roman compte parmi les gloires françaises. L'Académie lui sourit, elle l'appelle. Les poètes et les historiens, les dramaturges et les ingénieurs époussettent déjà son fauteuil et le tailleur qui tailla leurs habits à Victor Hugo et à M. le comte de Lille attendait dans son antichambre le maître en main. En ce roman dont je parle, il s'agit d'un peintre, naturellement. Et voici la scène que je veux conter. C'est la veille du jour où l'artiste doit envoyer sa toile au salon. Il a convié tous ses amis à venir voir son exposition dans son atelier. Les amis sont là, rangés en demi-cercle, impatients, devant le tableau que recouvre encore une immense toile de soie verte. Et, tout à coup, le voile se lève, le tableau apparaît. C'est le portrait d'une femme, d'une comtesse, célèbre par sa beauté. Le peintre l'avait saisie au moment où, sortant d'un salon éclairé par les mille lumières des lustres, des domestiques, dans le vestibule, lui présentent son manteau de fourrure blanche. « L'effet fut considérable », écrit l'auteur de cette conception, « car le portrait était vraiment frappant et superbe d'allure. Il y avait, dans ce tableau aux colorations puissantes et hardies, un sentiment merveilleux du modernisme, de l'impressionnisme, avec la science du dessin en plus. » Cette façon de comprendre l'art, comme le comprennent le nouvelliste du supplément et le romancier à la mode, n'est point rare. On peut même dire qu'elle est commune, non seulement parmi la foule, mais parmi les amateurs, les critiques, les peintres eux-mêmes, et ceux-là, bureaucrates, maniaques et bavards parlementaires, qui sont chargés, au nom du pays, de diriger l'art et les artistes, de les protéger, de les récompenser. Cela nous paraît furieusement comique quand nous lisons ces choses, et nous nous moquons. Hélas, nous n'avons point une notion plus noble, une plus hautaine compréhension de ce sublime mystère, de cette parcelle de divinité tombée dans le cerveau et dans le cœur de l'homme. Cela ne vous semble-t-il pas étrangement mélancolique qu'il y ait un ministère et un ministre des beaux-arts, et que l'art, dans notre paperasserie infirme, ne tiennent pas plus ou pas moins de place que le rôle social d'un garde-champêtre ou d'un sous-préfet. Et je me dis souvent, en lisant les discours de M. Bourgeois, « Quoi ? C'est tout ce qu'il apporte, cet homme nouveau, le progressiste des vieilles doctrines fripées, des vieilles théories éculées, des rabâchages énervants et des rengaines éternelles ? Et cela, en face d'un art jeune, vivant, croyant, éclatant, qui, malgré les cris, malgré les insultes, a rouvert les portes du temple et rallumé dans le sanctuaire la lampe sacrée. Au fait, que voulez-vous qu'ils disent, monsieur Bourgeois et les autres, et que voulez-vous qu'ils fassent? Les ministres et les ministères n'ont jamais servi qu'à déshonorer, par leurs commandes et leurs achats, les murs de nos monuments, les façades de nos palais, les jardins et les perspectives de nos places publiques et de nos promenades. Il n'y a qu'un seul gouvernement qui se soit montré vraiment artiste. C'est la Commune, quand elle incendia la Cour des comptes. Encore ignorait-elle l'admirable ouvrage d'architecture qu'elle nous léguerait. Et ces réflexions me sont venues en lisant dans un journal que l'on va très prochainement soumettre au jugement de M. Hiriart, inspecteur des Beaux-Arts, le monument incomparable que Rodin, l'unique sculpteur de génie de ce temps, a élevé à l'immortelle gloire de Victor Hugo. Écho de Paris, 23 juin 1891.